France Inter. Le 18-20. Claire Servageant.
Au téléphone sonne ce soir, question sur le don du sang. En France, celui-ci relève du bénévolat et de l'anonymat. Il dépend surtout du bon vouloir des donneurs. Encore faut-il qu'ils puissent se déplacer pour venir donner leur sang, ce qui, par les temps qui courent, n'est pas toujours gagné. Alors, comme souvent, l'établissement français du sang lance un appel aux donneurs, sachant qu'il faut 10 000 dons par jour pour faire face aux besoins. Ce soir, dans le téléphone sonne, on va faire de la pédagogie. On va voir qui peut donner son sang, à quelles conditions, à quel endroit, combien de fois, quel est le circuit de la poche de sang prélevé, à quoi servent précisément ces dons de sang, pourquoi seuls 4% des Français font la démarche de donner leur sang alors qu'ils sont bien plus à se dire prêts à le faire. On se demandera aussi si notre système, qui repose donc sur le bénévolat, est vraiment le meilleur, s'il est suffisamment sécurisé, ce qu'il conviendrait de faire éventuellement pour l'améliorer. Avec nous pour répondre à toutes vos questions ce soir, François Toujas, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président de l'établissement français du sang. Docteur Jamel Benomar, bonsoir à vous. Vous êtes vous aussi de l'établissement français du sang, responsable de la collecte en Ile-de-France. C'est bien ça, si vous pouviez vous rapprocher un tout petit peu de votre micro. Et ben voilà, comme ça on vous entend. Michel Moncelier, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Président de la Fédération française pour le don de sang bénévole. Bonsoir à vous. Pour joindre nos invités, et bien comme d'habitude, le standard de France Inter.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et tout de suite, un premier appel, c'est Robert, il est à Pau. Bonsoir Robert.
Oui, bonsoir madame.
Vous êtes donneur de sang, Robert, c'est bien ça?
Oui, la première fois que j'ai donné, c'était en 76, j'ai 67 ans. Si vous voulez, après j'ai eu beaucoup d'années d'interruption parce qu'il n'y avait pas de don itinérant, si vous voulez, là où je résidais. Mais après, il y a eu, dans mon entreprise, organisé le don du sang, donc tous les deux mois, je donne, et je donne à peu près 4 fois par an depuis 20-25 ans. Si vous voulez. J'ajouterais aussi que aujourd'hui il y a beaucoup d'événements sportifs, et pourquoi, si vous voulez, ne pas solliciter les joueurs d'une équipe, par exemple de foot ou d'un autre sport, hein, et les associer à un spot publicitaire qui dirait quelque chose comme, je sais pas moi, si vous voulez, nous donnons votre sang, pourquoi pas vous, voilà, comme vous disiez tout à l'heure, Madame Servageant, d'ailleurs, oui, c'est ça, vous disiez, pourquoi pas vous.
Pourquoi pas vous.
Peut-être que ça marcherait. Hein.
C'est une idée.
Mais est-ce que ceux qui ont eu besoin de sang sont incités à donner après, ainsi que leur famille? Parce que, si vous voulez, on a peur de la piqûre, mais ce n'est rien du tout. Hein. Moi, je donne 4 fois par an, donc si j'y retourne, c'est que ça ne fait pas grand-chose. De toute façon, si un jour on en a besoin, il faudra bien la subir, la piqûre.
Dites-moi Robert, juste en un mot, pourquoi vous avez un beau jour décidé d'aller donner votre sang et qu'est-ce qui vous motive? Pourquoi vous continuez?
Oh ben, tout simplement parce qu'il y avait une réunion, et puis on nous incitait à donner le sang, et puis forcément, juste à côté, il y avait le dispositif qui était là pour le don du sang, donc j'ai donné mon sang, puis après j'ai continué. Après, comme je vous disais, j'ai eu une interruption de quelques années, puisque là où je résidais, il n'y avait plus de... Mais il n'y avait pas d'itinérance.
Vous avez l'impression de faire un acte citoyen, Robert, quand vous donnez votre sang?
Oh, je ne sais pas si je pense à l'acte citoyen, j'y vais, et puis voilà. Quoi.
Vous ne vous posez pas trop la question?
Non, je ne me pose pas du tout la question. La dernière, j'aurais même pu donner 6 fois, mais comme j'étais allé dans le sud de la France, et qu'après j'ai eu une petite intervention chirurgicale, donc les deux derniers, je n'ai pas pu les faire.
Merci beaucoup, Robert, pour cette entrée en matière. Qui souhaite réagir à ce qu'on vient d'entendre? François Toujas, le président de l'établissement français du sang, peut-être? Robert, il est représentatif de ces donneurs qui reviennent comme ça?
Si vous me permettez d'abord...
Vous allez lui dire merci, je parie.
Non, je vais dire bonne année aux donneurs, parce que voilà, on est le 3 janvier, et merci et bonne année à tous les donneurs, et merci évidemment à Robert, qui évidemment est extrêmement représentatif d'un type de donneur. Robert est quelqu'un qui a inscrit le don du sang régulièrement dans sa vie, j'allais dire 3, 4, 5 fois par an, et ça c'est important. Deuxième point que donne Robert, et qui est important aussi, pour ce service public que représente l'établissement français du sang, c'est que c'est un service public de proximité. C'est-à-dire quand on est à Pau, on peut donner son sang. On a 40 000 collectes mobiles sur toute la France par an. On a 120 sites et le service public de la transfusion sanguine, c'est bien essayer de se mettre à disposition des donneurs, leur donner une offre de collecte. Et donc, merci à Robert qui a encore 3 ans pour donner, puisqu'on peut donner jusqu'à 70 ans, alors, si on est en parfaite santé.
On reviendra sur toutes ces conditions. Michel Moncelier, président de la Fédération française pour le don du sang bénévole, combien de donneurs en France? Un peu plus d'un million et demi, c'est ça?
1 600 000 donneurs, oui, qui donnent à peu près 3 millions de dons par an. Et ça permet d'assurer l'autosuffisance et dans un cadre que vous évoquiez tout à l'heure, à savoir le bénévolat et la non-rémunération. Et on parlera, je pense, de rémunération tout à l'heure, puisque vous l'avez laissé...
On posera la question. 1 600 000 donneurs, beaucoup reviennent, mais certains sont tenus par la limite d'âge aussi à un moment. Et ça veut dire qu'il faut tout le temps retrouver de nouveaux donneurs?
Alors, il faut tout le temps être sur le terrain pour communiquer. Et ça, c'est le travail des associations de la fédération. Il y a près de 3000 associations, plus de 30 000 bénévoles qui œuvrent au quotidien pour assurer aux côtés de l'EFS l'autosuffisance en produits sanguins. Par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le chiffre des 4% de Français qui donnent. Parce que quand on regarde, je dirais, la population française, il y a déjà 13 millions de personnes qui sont en affection de longue durée. Donc ces 13 millions-là ne peuvent pas donner. En plus, les personnes qui sont incarcérées ne peuvent pas donner. Il y a tout un tas de contre-indications qui font que l'on ne peut pas donner. Et quand on enlève toutes ces personnes qui ne peuvent pas donner, on arrive un peu plus de 50% de la population française qui donne ou qui a déjà donné. Donc ça place la France parmi les premiers pays au monde en matière de fidélisation et d'autosuffisance.
Merci beaucoup pour cet aspect, voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Sur cette nécessité de trouver de nouveaux donneurs, docteur Jamel Benomar, vous qui êtes responsable de la collecte en Ile-de-France, qu'est-ce qui est important? C'est d'informer, c'est de faire savoir pour aller chercher ces nouveaux donneurs potentiels?
Si je me permettais, il faudrait que nos sites fixes et nos collectes mobiles soient aussi visibles que le pharmacien de votre quartier. Il faut que notre enseigne fasse partie du quotidien des Français. Effectivement, la raison pour laquelle il faut absolument que les gens se déplacent, c'est qu'il y a des tensions à certains moments de l'année. Comme c'est le cas actuellement,
pourquoi? Parce qu'il y a les congés de fin d'année, parce qu'il y a cette grève des transports, parce qu'il y a des épidémies, c'est tout ça qui rentre en ligne de compte?
C'est les trois raisons réunies actuellement qui font que l'on est dans une période un tantinet difficile.
Alors c'est-à-dire qu'on s'arrête quand même 2 secondes sur cette question de cette période en tension. Normalement, il faut quoi? Je peux comprendre qu'il fallait 100 000 doses en réserve et on n'y est pas où on y est?
Il faut environ, effectivement, en concentré de globules rouges, 100 000 concentrés en réserve. On était ce matin, puisque on a la météo du sang, comme on dit tous les matins, et on était ce matin à un peu plus de 94 000. Donc ça veut dire qu'on est dans une situation qui n'est pas si difficile que ça. Plusieurs éléments nous ont amené, vous le rappelez tout à l'heure, à faire un appel. D'abord, on est dans des basses eaux du point de vue de la collecte. C'est les fins d'année, c'est les maladies liées à l'hiver. Et puis c'est vrai que le mouvement des transports a eu une conséquence un peu fâcheuse dans la première semaine, puisqu'on a perdu 5000 poches. Voilà. Et on est aujourd'hui dans une situation qui est relativement convenable. Mais juste un point important. Le don du sang, c'est tous les jours. Pour le dire autrement, on est dans une situation dans laquelle c'est tous les jours que nous devons mobiliser les donneurs, parce que les poches de sang ont des durées de vie limitées, parce que les plaquettes, par exemple, ont une durée de vie de 7 jours. Et donc, il faut en permanence, et c'est ça le message important qu'on voudrait faire passer, il faut qu'en permanence, les Français inscrivent le don du sang dans leur vie citoyenne.
On ne peut pas stocker, docteur Benomar, du sang.
On ne peut pas stocker. Nous pouvons...
À court terme, en tout cas, très court terme.
À court terme, on ne peut pas. C'est 42 jours de conservation pour des concentrés de globules rouges. Ça n'est que 7 jours, comme l'a dit Monsieur Toujas, pour des concentrés de plaquettes. Et il y a, de façon exceptionnelle, la possibilité de congeler des plaquettes ou des concentrés de globules rouges. Mais une fois... Alors, on le fait lorsque ce sont des dons excessivement rares, lorsque ce sont des groupes sanguins excessivement rares. Ça, c'est faisable. Par contre, il faut savoir que le pouvoir fonctionnel de ces cellules est amoindri que par rapport à la cellule qui a été conservée toute proche de son prélèvement.
D'où la nécessité, effectivement, de renouveler en permanence les stocks. On repart au standard de France Inter. Thierry nous appelle de Toulouse. Bonsoir Thierry, vous êtes donneur, vous aussi.
Oui, bonsoir à tous, bonne année.
Bonne année à vous Thierry.
Je celui d'honneur, effectivement. Et moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est le questionnaire de plusieurs pages, c'est-à-dire 4 ou 5 pages, qu'on doit systématiquement remplir, avoir un don du sang, que je trouve particulièrement inquisiteur vis-à-vis de votre vie sexuelle.
Eh bien, écoutez, on va poser la question à nos invités. Thierry, merci beaucoup. Michel Moncelier, c'est quoi alors ce questionnaire? Qu'est-ce qu'il faut décliner là comme précision? Dites-moi.
C'est-à-dire que c'est un questionnaire qui permet de vérifier l'état de santé et les risques que l'on va éventuellement encourir ou faire encourir au patient qui va recevoir les produits sanguins. Donc c'est vrai que c'est un peu rébarbatif, et notamment c'est compréhensible pour les donneurs de plasma qui donnent tous les 15 jours, par exemple, qui sont obligés de remplir ce questionnaire qui fait 4 pages, et sur lequel vous avez tous vos déplacements, parce que quand on va à l'étranger, hors de France, on peut être exclu du don pendant 4 mois, ou 28 jours suivant certaines conditions. Si vous avez été chez le dentiste, c'est une semaine de contre-indication. Donc il y a toute une phase de questionnement qui fait qu'on va déterminer si vous êtes apte ou pas à donner votre sang, toujours dans l'intérêt du donneur premièrement, parce qu'il y a aussi des conditions qui font qu'on ne peut pas donner. Si on a un taux d'hémoglobine qui est trop bas par exemple, c'est pas la peine de continuer à prélever parce qu'on va mettre le donneur en anémie. Donc ça, c'est la protection du donneur, et ça, on y est, nous, très attachés. Mais on est aussi très attachés à la sécurité du receveur, de façon à ce que le receveur reçoive des produits sanguins les plus sûrs possibles pour le sortir de la mauvaise passe dans laquelle il se trouve.
Alors, question sur les déplacements, les voyages, les zones géographiques où on a pu passer, les maladies, etc. Mais et il avait l'air de dire, quand même, Thierry, qu'il y a aussi des questions sur les relations sexuelles qu'on a pu avoir.
Complètement.
C'est-à-dire, on vous demande quoi?
Ben, on vous demande si vous avez changé de partenaire dans les 4 derniers mois, par exemple.
On vous le demande que vous soyez un homme ou une femme.
Oui, absolument. Tout à fait. Exactement. Donc, le changement de partenaire fait que on prend des risques parce qu'on ne connaît pas toujours le partenaire avec lequel on a pu passer la soirée. Et donc, quand on change de partenaire, on a une contre-indication pendant 4 mois parce qu'il y a des virus que l'on n'arrive pas à détecter du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce qu'on appelle une fenêtre silencieuse pendant laquelle, entre le moment où vous êtes contaminé et le moment où on va pouvoir la détecter dans des tests, il y a une période pendant laquelle ce n'est pas possible. Et donc, c'est uniquement pour protéger le receveur que l'on va pouvoir vérifier cette donnée.
Docteur Jamel Benomar, mais ça repose sur le déclaratif, c'est ce que les gens veulent bien dire en tout
absolument.
Cas.
Absolument, c'est toute la beauté de ce métier déjà, c'est toute la beauté du geste que font les donneurs, puisque c'est basé sur l'anonymat, le bénévolat et la gratuité, qui pour nous médecins est un gage de sécurité capital.
François Toujas, vous voulez rajouter quelque chose à ce sujet?
Oui, il est possible que le questionnaire apparaisse comme rébarbatif quand on veut donner son sang. Juste pour dire tranquillement à Thierry que remplir le questionnaire, c'est le début de la sécurité transfusionnelle. Puisque quand on va donner son sang, on va bien établir un lien invisible avec quelqu'un qui, un jour, recevra le produit qui a été prélevé. Et pour ça, on a besoin de s'assurer de deux choses. Un, de l'état de santé du donneur, parce que l'état de santé du donneur est important, et aussi que le geste altruiste qu'il va faire ne remette pas possiblement en cause l'état de santé du bénéficiaire de produit. Donc ça, c'est quand même important de dire que ce questionnaire, qui peut, je le conçois, être quelque peu rébarbatif, qui demande quelquefois des connaissances de géographie un peu importantes. Est-ce que vous êtes allé en Italie? Oui, dans le nord de l'Italie, le cœur de l'Italie, des choses un peu compliquées. Je le redis, c'est vraiment le début de la sécurité transfusionnelle qui est un point extrêmement important pour notre activité.
Si je peux me permettre, parce qu'on a eu beaucoup de questions qui sont arrivées sur franceinter.fr à ce sujet cet après-midi. Hervé, par exemple, qui a eu un cancer des testicules il y a 40 ans. Et il nous dit, aujourd'hui, grâce au droit à l'oubli, je peux faire un emprunt sans en faire mention. Mais pour le don du sang, c'est niette. Si vous voulez du sang, soyez moins rigide. Voilà ce qu'il nous dit. Il y a aussi Bruno qui nous dit, alors j'ai de la tension. Et du coup, on me dit non merci. C'est pas un peu trop rigide tout ça, docteur Jamel Benomar?
Écoutez, non, ça n'est pas trop rigide, puisque ce qui est absolument capital, comme l'ont dit M. Toujas et M. Moncelier, c'est qu'on est garant de la sécurité des donneurs d'abord, des receveurs et du personnel. Donc ce sont des points qui ne sont pas négociables.
Hélène nous appelle à son tour, et elle a vécu en Grande-Bretagne. Elle a une question par rapport justement à son passage dans ce pays. Bonsoir Hélène.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Hélène.
Voilà, donc j'ai toujours donné mon sang quand j'étais jeune, parce que dans la famille, c'était comme ça. Mes parents le donnaient régulièrement, on se posait même pas la question. C'était quelque chose qu'on faisait, voilà. Comme on invitait les voisins à manger, hein, ça faisait partie de l'humanité quotidienne. Mmh. Et puis, après mon voyage en Grande-Bretagne, pendant la maladie de la vache folle, Creutzfeldt-Jakob, j'ai découvert après, en donnant mon sang, que j'étais exclue du don. Donc bon, je le comprenais, mais là, 30 ans après, je comprends plus, parce que je n'entends plus parler de cette maladie, et je suis toujours exclue du don. Et puis je voudrais aussi préciser que mon mari a souffert d'une leucémie dont il est décédé, et que nous avons pu apprécier la vie que lui permettait le don du sang des autres donneurs. Merci. Et depuis, donc, ma fille est très militante sur le sujet, et moi je souhaiterais donner à nouveau mon sang.
Merci beaucoup Hélène pour ce témoignage, et je précise que vous n'êtes pas toute seule, on a pas mal de questions qui nous arrivent de personnes qui ont vécu en Grande-Bretagne à l'époque de la maladie de la vache folle. Docteur Jamel Benhomar, c'est vraiment exclu de chez exclu, ça ?
Alors, c'est encore exclu, puisqu'il ne suffit pas simplement d'avoir voyagé dans les îles britanniques pour que l'on soit contre-indiqué, mais y avoir vécu plus d'un an en séjour cumulé entre 1980 et 1996, tout simplement à cause du fait que ce pays, enfin ces îles, ont été touchées par la maladie de la vache folle, le Creutzfeldt-Jakob, et qu'il a été démontré qu'il pouvait y avoir des transmissions par voie transfusionnelle. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, cette contre-indication nous est toujours maintenue par nos autorités de tutelle.
Alors on va parler dans un instant d'une autre exclusion qui est en train de disparaître progressivement, celle des homosexuels.
France Inter. Téléphone sonne.
On va en parler avec Jérémy Falédan, qui est vice-président de l'association SOS Homophobie, qui est en ligne avec nous, co-président de SOS Homophobie. Bonsoir à vous, Jérémy Falédan.
Bonsoir.
On a tenu à ce que vous puissiez intervenir parce que vous réclamiez depuis longtemps le droit pour les homosexuels hommes de pouvoir donner leur sang. L'interdiction a été totale pendant des années. Elle est progressivement levée. La période d'abstinence de 12 mois va passer à 4 mois à partir du mois d'avril, c'est ça ? Est-ce que ça vous satisfait ?
Oui, effectivement, les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes ont été exclus pendant très longtemps du don du sang. Finalement, la restriction est tombée en 2016. Elle est passée à 12 mois d'abstinence. Donc, c'est-à-dire que les hommes qui ont eu une relation sexuelle avec un homme doivent s'abstenir 12 mois avant de pouvoir donner leur sang. Et cette restriction diminue à 4 mois à partir d'avril. Donc, pour nous, ça va dans le bon sens. Il y a plein d'études qui permettent de montrer aujourd'hui que le risque résiduel de cette ouverture n'est pas accentué avec ces réductions. Et donc nous, voilà, on veut aller vraiment vers une harmonisation sur les conditions d'accès aux dons du sang sur les personnes hétérosexuelles.
Parce que pour vous, c'était clairement quelque chose de discriminatoire ?
En tous les cas, c'était vécu comme une vraie stigmatisation par les personnes homosexuelles qui ne pouvaient pas donner leur sang. On a parlé plusieurs fois pendant l'émission d'un acte citoyen, c'est un geste vraiment altruiste. Et donc aujourd'hui, toutes ces personnes, elles se sentent exclues de cette possibilité-là. Et donc c'est vraiment vécu comme une stigmatisation. Et en fait, quand on est homosexuel, on est présumé comme ayant des pratiques à risque, alors que ce n'est la plupart du temps pas le cas.
Merci beaucoup pour cette intervention. François Toujas, c'est donc une des nouveautés de l'année 2020 qui va s'appliquer à partir du mois d'avril.
Oui, la ministre Agnès Buzyn a annoncé que le 2 avril serait effectivement ramené à 4 mois cette période, comme Jérémy l'a dit. Et je pense que c'est une évolution nécessaire et heureuse. Mais c'est une évolution qui doit se faire en vérifiant en permanence que cette ouverture ne remette pas en cause la sécurité. Parce que je voudrais le redire un peu fortement, donner son sang est un très bel acte, mais le droit, il est du côté des patients à recevoir des produits qui sont les plus sécurisés possibles. Et donc il est bien évident que, loin de l'établissement public d'avoir quelques pensées discriminatoires sur ces sujets, nous ne sommes pas là pour juger. Nous essayons, à partir des éléments épidémiologiques, de voir comment on peut faire évoluer ces éléments. Jérémy l'a dit, et c'est heureux, on est passé finalement assez rapidement d'une interdiction ou d'un ajournement total avant 2016 à, dès le 2 avril, un ajournement de 4 mois. Et la ministre a même annoncé que c'était un pas vers une égalisation complète des capacités à donner pour les hommes ayant eu des relations sexuelles avec les hommes et comparativement à d'autres, à savoir que ça serait 4 mois, possiblement dans quelques années, avec pas de changement de partenaire. Voilà.
A priori, docteur Benomar, plus de risques ou quasiment plus de risques de ce point de vue-là.
Ce sont des études qui vont être faites une fois après le 2 avril, qui vont être axées sur essentiellement 2 points. La compliance, c'est-à-dire dire ce qu'il y a, et une étude épidémiologique. Il faut, voilà. C'est essentiellement sur ces 2 points que va évoluer, en fait, la législation.
Marie-Dominique, qui est au standard, elle aussi, elle est à Brest. Bonsoir, Marie-Dominique. On vous écoute. Bienvenue.
Bonsoir. Merci. Oui, donc moi j'intervenais pour vous dire comment se fait-il que il y a quelques années, il y avait des camions de collecte de sang qui passaient dans les entreprises et donc beaucoup de personnes y participaient. Alors je voudrais savoir pourquoi ça n'existe plus. Ne serait-ce pas l'intervention peut-être du MEDEF ou, enfin, je ne sais pas, des patrons qui ne veulent plus peut-être que leurs employés consacrent 1 heure ou 2 heures pour ce don de sang.
Ah, Marie-Dominique, là, vous avez une lecture très particulière de tout ça qui suscite pas mal d'interrogations dans le studio. Qui veut nous répondre peut-être, Michel Moncelier, sur le patronat? Oui, alors, ne voudrait pas qu'on perde du temps dans une chanson?
Je pense pas qu'il y ait de consignes du MEDEF ou de quelques dirigeants d'entreprises que ce soit. Si je prends des entreprises comme La Poste ou Orange, on peut toujours faire des collectes en interne. Le gros problème que l'on a, c'est en effet la mise à disposition de véhicules de collecte. Aujourd'hui, l'Établissement français du sang préfère collecter dans des salles. Or, toutes les entreprises n'ont pas forcément des salles suffisamment dimensionnées, parce qu'il faut une salle d'à peu près 100 mètres carrés pour pouvoir accueillir le don. Et donc, les 4 étapes dont on parlera tout à l'heure probablement, c'est-à-dire l'accueil...
Alors, dites-nous tout de suite, voilà. Comment ça se passe quand il y a une collecte organisée?
La phase d'accueil, on parlait tout à l'heure du questionnaire, eh bien, on commence déjà par remplir le questionnaire préalable au don avant de contacter, d'aller voir les secrétaires et d'être enregistré dans le système d'information de l'Établissement français du sang. Puis après, il y a un test d'hémoglobine, à savoir vérifier que l'on est bien en état d'avoir un taux d'hémoglobine suffisant pour pouvoir donner. Puis un passage devant l'entretien médical, qui aujourd'hui est médical, et on en parlera peut-être, qui peut évoluer parce qu'on a la pénurie de médecins, et qui fait aussi peut-être que dans les entreprises, on y va moins parce qu'il n'y a pas de médecins disponibles. Donc ça, on en pourra en parler. Et puis après, il y a la phase de don elle-même. Et puis après, le don, qui dure à peu près 10 minutes, un quart d'heure, il y a la phase de collation, pendant laquelle on est sous surveillance du médecin ou de l'équipe de prélèvement, avant de retourner dans l'entreprise. Donc, dans l'entreprise, ça fait une absence d'à peu près 1 heure de sa position de travail, et c'est tout à fait gérable quand on est avec le management à organiser le planning des départs des salariés. Et aujourd'hui, il y a toujours des collectes qui se déroulent, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément la disponibilité des camions, et que ça peut être une pierre d'achoppement pour pouvoir faire ce type de collecte.
C'est important d'aller dans les entreprises, François Toujas, ou d'aller un petit peu partout. Je repense à ce que nous disait notre premier auditeur qui nous disait qu'il faut aller voir les sportifs dans les manifestations sportives. Il faut aller partout pour collecter.
Il est évident qu'il faut aller partout le plus possible. Et il faut aussi rappeler, c'est important, que c'est un service public de proximité et que nous déployons quand même 40 000 collectes mobiles par an. Donc le sujet qui est posé à Brest, d'ailleurs j'ai pas trop d'inquiétude puisque la Bretagne est quand même une terre solidaire, hein, importante. Moi j'ai un sujet aussi qui est celui de l'efficience de mon appareil de collecte. Puisqu'après tout, le travail que nous faisons, que nous réalisons avec les donneurs, c'est aussi des fonds publics. Et je suis, et je trouve ça normal, interrogé aussi sur l'efficience. Alors il faut faire attention aussi parce que cette efficience... elle est aussi, me semble-t-il, au cœur de notre système éthique. Parce qu'on utilise des fonds publics, il faut qu'on les utilise le mieux possible. Et ça signifie qu'on regarde en permanence, dans une relation qu'on essaie la plus claire possible avec les associations de donneurs, de voir comment on peut organiser une offre de collecte sur le territoire. Mais il se peut quelquefois qu'effectivement, quand on faisait des collectes avec un véhicule, on ne les fasse plus et que ce soit redéployé. Ça, c'est tout à fait sûr.
Denise est dans l'Eure et elle fait partie d'une association de donneurs de sang. Bonsoir, Denise.
Bonsoir, oui. Bonsoir, oui.
Oui, on vous écoute, Denise.
C'est une association de donneurs de sang en milieu rural. Et donc, nous avons constaté ces derniers mois-là que beaucoup de collectes avaient été supprimées, on nous dit, à cause du manque de médecins. Donc, voilà, ça fait, en fait, ça fait des centaines de donneurs qui n'ont pu donner leur sang, qui ne peuvent pas se rendre dans les centres de dons, qui profitent des collectes mobiles et qui n'ont pas pu donner leur sang, quoi. Alors, bon, donc, nous, on trouve que c'est très grave, quoi.
Effectivement, merci, merci beaucoup, Denise, pour cette remarque, docteur Jamel Benomar. Mais c'est comme tout le reste du service public. Alors, il y a plus de personnel, il n'y a plus de médecins. Qu'est-ce qui se passe là ?
Il y a encore des médecins. Et en plus, ce que je peux dire, c'est que notre établissement a pris un petit peu les devants, puisque depuis quelques années, il est possible qu'une infirmière, après formation et habilitation, puisse mener ses entretiens pré-don. Et dans un avenir certain, en 2020, va commencer une première expérimentation où il va y avoir donc des collectes avec des infirmières, et simplement des infirmières, mais avec un médecin qui sera à distance, qui pourra répondre au téléphone. Ce sont des collectes que nous essayons. Alors, c'est une nouvelle façon de faire, mais deux points, la sécurité et encore la sécurité.
Mais alors, juste, je reviens, François Toujas, quand même ce que nous disait Denise, elle ne l'a pas inventé, que ça manquait de médecins. Il se passe quoi là ?
Alors, deux points. Un, je le redisais, il faut qu'on s'organise sur les territoires afin de rendre les collectes plus efficientes, ça c'est la première chose. Deuxième chose, on a aujourd'hui à déplorer des annulations de collectes par manque de personnel médical. Ce qui ne veut pas dire que budgétairement, les postes n'existent plus. Ils existent, mais on a du mal à les faire venir chez nous. Ça signifie qu'un des enjeux très importants de notre modernisation, y compris d'ailleurs en termes de capacité à garder l'autosuffisance nationale pour les sanguins labiles, est de moderniser cette collecte. La moderniser comment ? Le docteur Benomar le disait. Un, en accroissant les actes qui sont possiblement faits par des infirmiers et qui était fait auparavant par des médecins, c'est l'entretien près d'un infirmier. Et puis, ce que je peux annoncer aussi, c'est qu'en 2020, nous allons expérimenter pour la première fois des collectes dans lesquelles la présence du médecin ne sera plus physique, mais ça permettra donc d'organiser des collectes sans avoir une présence obligatoire des médecins. Et ça me semble être un élément important de la modernisation et de la capacité à continuer à pouvoir, sur les territoires, accueillir des donneurs.
Qu'en dit le président de la Fédération française pour le don du sang bénévole, Michel Moncelier ?
Alors, Michel Moncelier, bien évidemment, il ne peut pas forcément être d'accord
avec... Oui, mais c'est bien pour ça que je vous pose la question, oui.
Il ne peut qu'être d'accord avec sa présidente d'association de l'Eure, qui est de plus en plus en déshérence, parce que c'est vrai qu'en Normandie, que ce soit en Haute-Normandie notamment, il y a de plus en plus de suppressions de collectes, y compris dans des villes importantes où il y a beaucoup de donneurs. Et donc, c'est clair que pour nous, ça a été dit tout à l'heure, mais je le répète, le don de sang, c'est un don de proximité. Et dans un système bénévole comme le nôtre, si on ne va pas vers le donneur, il ne vient pas vers l'établissement français du sang. Donc là, c'est tout l'enjeu de l'autosuffisance dont on vient de parler, à savoir que, manifestement, les donneurs ne vont pas faire 30, 40, 50 kilomètres pour aller donner leur sang. Tout à l'heure, nous avions une interlocutrice qui parlait du don en entreprise. C'est vraiment là où, quand on vient dans l'entreprise, le donneur, entre guillemets, est captif, c'est-à-dire que il va sur son temps de travail, il est là sous la surveillance de son entreprise et avec l'accord de son entreprise. Donc on est franchement dans le don de proximité par excellence, c'est-à-dire que là, on va vraiment vers le donneur. Et quand on va vers le donneur, il est beaucoup plus enclin à donner.
Une question d'Éric. À présent, Éric est à Paris. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bienvenue, Éric.
Merci.
On vous écoute.
Alors, moi, je suis un donneur, un ancien donneur, mais qui ne demande qu'à être rassuré, en fait. J'ai beaucoup donné pendant 13 ans, parce que j'ai eu la chance de toujours travailler près d'un centre de prélèvement. Toujours très bon accueil, rien à dire. J'étais grand défenseur, même. J'essaie de militer pour que les collègues fassent la même chose. Mais j'ai récemment arrêté d'y aller suite, en fait, à un reportage qui est passé à Secret d'Information, qui décrivait une sorte de scandale sanitaire avec le don de plasma, avec des machines qui marchaient pas bien, qui laissaient des dépôts dans les sondes et tout ça. Donc, ça ne me touchait pas directement puisque ça touchait plutôt ceux qui étaient ensuite transfusés et c'était plutôt le don de plasma, pas le don du sang lui-même. Mais le problème, c'est qui en sortait, c'est l'attitude de l'établissement français du sang qui donnait l'impression de vouloir cacher l'information et ne pas, et même pas sanctionner, si vous voulez, même pas vraiment faire porter la responsabilité aux entreprises qui fournissaient les machines. Donc, encore une fois, je suis pas impacté directement, mais l'attitude que ça, l'impression que ça donnait était pas rassurante, et c'est vrai que ça m'a un peu dissuadé.
Et toujours est-il que ça vous a dissuadé, que vous ne donnez plus de sang en attendant. Qui souhaite réagir, François Toujas, président de l'établissement français du sang?
Oui, alors, j'espère pouvoir vous rassurer. Effectivement, nous avons eu des problèmes avec des séparateurs d'une marque, voilà. Ces problèmes ont donné suite à un nombre extrêmement important d'analyses par des laboratoires indépendants, par les pouvoirs publics, par l'Agence nationale de sécurité des médicaments. Toutes ces analyses, tous ces rapports sont produits publics sur les sites de l'ANSM et de l'établissement français du sang. Que disent les autorités sanitaires? Elles disent qu'il n'y a pas de problème de sécurité. Il n'y a pas de problème de sécurité sur ces sujets. Et donc je crois qu'il faut rassurer l'ensemble des personnes. Je comprends d'ailleurs que légitimement quelques donneurs aient pu s'inquiéter. Je le redis, nous n'avons aujourd'hui aucun problème de sécurité avéré. Et je m'en excuse si vous pensez qu'on a voulu cacher des choses. Rien n'est caché. Tout est publié sur nos sites et je crois que je redis très clairement que la sécurité des donneurs est assurée, et des personnels d'ailleurs, c'est important, et donc aussi des receveurs, est assurée comme d'habitude. C'est, je pense, une de nos principales préoccupations quotidiennes à l'établissement.
Est-ce qu'on pourrait dire un mot peut-être de la destination du sang qui est donné par les donneurs de sang? Combien de bénéficiaires par an et pour quel usage en gros, docteur Jamel Benomar, est-ce qu'on a des grandes catégories qu'on peut peut-être
citer? Cela va peut-être vous surprendre, mais 1 million de personnes vivant dans ce pays dépendent de la transfusion sanguine. 1 million, madame. 500 000 d'entre eux en phase liquide, par le plasma, les plaquettes, les globules rouges, et 500 000 autres, c'est tout aussi important, par l'intermédiaire des médicaments dérivés du sang que l'on extrait à partir du don de plasma ou à partir du plasma qui a été séparé à partir d'un don d'afférès de plaquettes ou de sang total.
Est-ce qu'on peut dire peut-être aussi un mot de la compatibilité entre donneur et receveur? Est-ce que ça, c'est un souci que vous avez à l'esprit lorsque des personnes viennent donner leur sang? Est-ce que certains groupes sont plus recherchés que d'autres?
Évidemment, bien sûr. Allez, on va parler du groupe O. Allez, idéalement le groupe O négatif, mais c'est quoi? C'est 5% des Français seulement. Et vous me tendez une perche par rapport à un type de population vivant en France, et je parle des Afro-Antillais essentiellement, des gens d'origine afro-antillaise, chez lesquels on retrouve des groupes sanguins un petit peu particuliers, qui ne sont pas aussi répandus que dans la population caucasienne. Et il y a un effort de l'établissement français du sang pour sensibiliser ces personnes de façon à ce qu'ils viennent donner de façon régulière.
C'est parce que ça veut dire que les personnes de la même communauté ont besoin de ce sang-là, c'est ça?
Absolument,
que vous voulez nous expliquer?
Parce qu'il y a une pathologie qui est particulière, qui est la drépanocytose, et qui nécessite des transfusions itératives, mensuelles, pratiquement, chez beaucoup de gens. Et il nous faut absolument respecter le groupe sanguin, sinon on va dans des conflits immunitaires et des impasses transfusionnelles où, dans ce pays, il n'est pas possible de voir.
C'est très important, ça, François Toujas, de toucher différents profils de donneurs?
Je pense que c'est un de nos défis extrêmement importants. Nous devons répondre à la diversité ethnique croissante de la population de nos concitoyens. Ça veut donc dire qu'on doit avoir des donneurs qui ressemblent aux patients, et donc le sujet de la compatibilité est extrêmement important. Ça veut donc dire que nous continuons, le docteur Benomar d'ailleurs, c'est une de ses responsabilités importantes dans l'Île-de-France, à essayer d'avoir plus d'action vis-à-vis de ces communautés pour qu'elles viennent donner.
Sam est en ligne du Gard. Bonsoir, on va accélérer, il est déjà 19h55 et on va essayer de prendre encore un ou deux appels. On vous écoute, Sam.
Oui, bonsoir, merci pour la qualité de vos émissions, bonne année. Donc, j'ai un groupe relativement rare à moins. Je donnais mon sang avant régulièrement, mais j'ai contracté un paludisme quand j'étais enfant. Et au début, on nous refusait le don, on nous disait qu'il fallait une période d'un an sans crise et résident en Europe. Et puis après, c'est passé à 10 ans, j'aimerais savoir ce qu'il en est aujourd'hui, est-ce que je peux à nouveau donner mon sang ou pas, dans la mesure où je voyage sous les tropiques, mais je n'ai plus jamais refait de crise. Mais j'ai fait des paludismes. Voilà, merci
beaucoup, docteur Benomar.
Alors, il y a effectivement des précautions qui sont prises, puisqu'une personne qui a voyagé, je parle de voyager, hein, dans une zone impaludée, est interdite de don pendant 4 mois, de façon à ce que l'on ait des examens biologiques qui soient les plus fiables possibles. Par contre, si on a déjà contracté si on a déjà fait des crises de paludisme, effectivement, il faut que l'on ait plus du tout de crise de paludisme pendant quelques années et l'attester par des examens biologiques.
Je voudrais qu'on aborde la question du don bénévole, puisque le sang, on le donne gratuitement, mais il a quand même un coût pour les hôpitaux qui l'utilisent et pour tous les services médicaux qui l'utilisent. Est-ce qu'il ne faudrait pas, pour ne plus faire face par moment à une pénurie, rémunérer les donneurs? Michel Moncelier, président de la Fédération française pour le don du sang bénévole, dites-nous tout.
Alors, il est bien évident que...
Il y a des pays où ça se fait.
Pays où on rémunère, et on va en citer quelques-uns. Hein. Donc, en France, on a fait le choix depuis les années 50 d'être un pays orienté et uniquement basé sur le bénévolat et la non-rémunération. Et ça a payé, puisqu'aujourd'hui, on est autosuffisant et on a toujours été autosuffisant. Donc, tous les pays qui rémunèrent, quel que soit le type de rémunération, que ce soit de façon monétaire, que ce soit un don compensé, que ce soit un don familial, aucun de ces pays n'est vraiment autosuffisant. C'est-à-dire que pour atteindre l'autosuffisance, il n'y a que le système bénévole et non rémunéré. Alors, des pays en Europe rémunèrent, c'est le cas de l'Allemagne, puisqu'il y a 3 types de prélèvements qui se font en Allemagne, c'est-à-dire le don de sang total est prélevé par la Croix-Rouge qui ne rémunère pas et par certains hôpitaux qui rémunèrent, et aussi le plasma qui, lui, est rémunéré par des laboratoires industriels qui collectent directement. Et là, il est bien évident que...
Avec des dérives possibles.
Voilà, alors nous sommes dans une dérive que nous avons dénoncée à plusieurs reprises, et y compris par des films réalisés, que ce soit aux États-Unis ou en Autriche récemment, où manifestement on voit que le donneur n'est plus un donneur, c'est-à-dire qu'il vient vendre son plasma et mettre en danger sa propre santé, parce que en France on peut donner son plasma tous les 15 jours, 24 fois par an. C'est le délai qui est nécessaire pour reconstituer ses réserves, que ce soit en protéines ou en immunoglobulines. Si vous donnez votre plasma en Allemagne 2 fois par semaine, il est clair que vous appauvrissez la santé du donneur.
Est-ce qu'on est sûr, Michel Moncelier, qu'on n'importe pas en France de produits venant de personnes qui se font payer en échange de leurs dons?
Il est clair qu'on importe aujourd'hui des médicaments dérivés du plasma dont parlait Jamel Medomar tout à l'heure. 50% aujourd'hui des médicaments dérivés du plasma sont importés et ont été collectés auprès de personnes qui ont été rémunérées.
François Toujas, oui, pardon.
Si je pouvais me permettre, il ne faut pas oublier que le don rémunéré, le don familial, le don de remplacement représentent au minimum 21 fois plus de transmettre le VIH que sur le don non rémunéré.
François Toujas.
Oui, juste pour rappeler de façon très claire que la ministre l'a plusieurs fois rappelé, nous sommes contre la marchandisation du corps humain. Nous sommes contre cette marchandisation, première chose. Deuxième chose, et je voudrais le dire, ce service public qui est un monopole, il est efficace. Puisque depuis 20 ans, jamais la France n'a manqué de produits sanguins labiles. Donc c'est à la fois de la morale, mais c'est aussi de l'efficacité dans le traitement, dans la prise en charge des malades.
Voilà, ce sera donc le mot de la fin. J'ajoute juste peut-être un petit sondage que j'ai découvert sur à propos des donneurs. À 96%, ils se diraient heureux, plus que le reste de la population. Hein. Ça peut être une motivation, ça, Michel Moncelier,
d'aller donner. En effet, donc, les donneurs de sang sont très heureux d'être utiles. Et en général, ils sont heureux dans leur vie parce que il est clair que quand on est dans une situation familiale difficile, on est beaucoup moins enclin à donner son sang. Donc les donneurs de sang sont heureux et vont continuer à être heureux de le donner.
Merci beaucoup Michel Moncelier, docteur Jamel Benomar, mille fois merci d'être venu, François Toujas aussi.
Merci.
Toutes les infos sur le site de l'établissement français du sang, on va dire, pour ceux qui s'intéressent, pour trouver les collectes, etc.
Absolument.
Voilà, il y avait encore plein d'autres questions, mais c'est la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à la préparer, Pierre Dessertaine, Amel Meyer, merci à Marion Lelay, Fabrice Desmas, Tristan Gratalon, Nicolas Cazot. Dans un instant, après le flash, Julia Foyce, pas son genre.